décide d'aller voir du pays et d'aller à la rencontre des gens, parce que c'est déjà un peu l'anti-touriste. Il y a déjà des touristes à l'époque, au XVIe siècle, et Montaigne cherche à les éviter. Il entend par exemple des gens qui parlent français à Rome, ça l'énerve. Quand il va à Augsbourg, il s'habille comme les gens d'Augsbourg pour faire l'effort de ressembler aux hôtes qui le reçoivent et d'adopter leurs coutumes, parce que c'est ça qui l'intéresse, c'est la diversité humaine.
Il nous ressemble déjà un peu, hein, Montaigne, finalement, et vous l'avez aussi beaucoup lu, hein, vous, pendant votre voyage. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de certains aspects de sa pensée qui étaient toujours contemporains ?
Il y a des thèmes qui sont étonnamment modernes. On cite beaucoup, d'ailleurs, chez les antispécistes, par exemple. On parlait dans la pub, juste avant, des flexitariens, des végétariens. Montaigne, il n'est pas très loin de tout ça, puisqu'il écrit les premières pages modernes, parce que les anciens le faisaient déjà, les Grecs, les Latins, les premières pages modernes sur l'animal, la valeur de l'animal, le fait qu'il n'y a pas de différence de nature ou d'essence entre l'homme et l'animal, simplement une gradation dans l'échelle des espèces, et que l'animal, d'ailleurs, nous est supérieur pour un certain nombre de perceptions, et que d'ailleurs, on ne sait pas trop bien, il dit, quand je joue avec mon chat, si c'est moi qui joue avec lui ou lui qui joue avec moi.
Alors vous étiez...
Parfois, on se dit la même chose à cheval, on ne sait plus très bien si c'est nous qui menons le cheval, ou si c'est le cheval qui nous mène, ou qui décide quel chemin prendre. Je me rappelle parfois, d'ailleurs, que j'hésitais à franchir un pont, parce que vous voyez, la cheval, évidemment, se met d'embûches. Et puis, c'est le cheval qui y va. Et donc, on le suit. Mais il y a peut-être une raison plus fondamentale, c'est son sujet. Et c'est le sujet, d'ailleurs, qui fera que Zweig écrira une émouvante petite biographie de Montaigne, précisément pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Zweig lui-même est réfugié au Brésil. C'est comment reste-t-on soi-même et comment reste-t-on sain d'esprit et constitue-t-on ce qu'il appelle une arrière-boutique, j'aime bien cette expression, un endroit où la personnalité peut se constituer dans une époque un peu folle, dans une époque extrêmement troublée.
L'époque un peu folle, extrêmement troublée, on a l'impression que c'est aussi ce qu'on vit aujourd'hui. Certaines personnes ont même l'impression qu'on n'a jamais vu autant de violence, qu'on n'a jamais été aussi divisé entre pays ou même à l'intérieur même des pays. Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous avez ressenti, cette violence parfois qu'on applique à la société contemporaine? Est-ce que vous, en allant à la rencontre des gens, vous avez ressenti ça en Allemagne, en Italie, en Suisse?
Alors moi, le parti pris du voyage, c'était de ne pas du tout écouter les informations, du tout. Et donc, en fait, je n'entendais de l'actualité que ce que les gens voulaient bien m'en dire. J'ai appris dans une épicerie qu'on avait changé de Premier ministre, mais enfin, ça ne m'occupait pas plus que ça dans mes journées. Et ce qui est intéressant, c'est que le voyage cheval, c'est quand même un voyage très lent. C'est un voyage vraiment au cœur des territoires, et c'est un voyage où on n'a pas le choix que d'aller à la rencontre des gens, puisqu'on est toujours en difficulté. Il y a quelques gîtes de tourisme équestre, enfin ils sont rarissimes. La plupart du temps, il faut aller chez l'habitant, il faut trouver des amis d'amis qui hébergent le cheval dans leur stabulation, tandis que vous, c'est un cousin qui va vous amener dans une grange pour y passer la nuit.
Et vous avez été bien reçu partout ?
Et donc, je trouve d'abord merveilleux que le vieux sens de l'hospitalité, où on reçoit les gens parce que ce sont des voyageurs, le vieux sens du mot voyageur, il existe encore. Il suffit de le susciter et il est clos. Et c'est assez émouvant. Et puis, les gens me faisaient confiance, on parle d'insécurité. Moi, j'arrive, je peux être un brigand, je peux les assassiner dans leur sommeil. Enfin, ils ne connaissent rien de moi. Je ne suis pas noté avec des petites étoiles comme sur Airbnb. Et donc, en fait, ce qui suscite la confiance, c'est vraiment le regard, le sourire, un geste, un mot. Et puis on voit des fois, les gens sont un peu, se demandent, hésitent, sont un peu fermés, puis il vous faut trouver la clé. Et c'est un jeu qui est un vieux jeu anthropologique, qui est le jeu du voyageur, mais qui est un jeu passionnant. Et je me rappelle d'une fermière qui m'avait dit, vous savez, ma mère accueillait les vagabonds, il y avait toujours une écuelle à table pour le vagabond de passage, et moi je fais la même chose pour vous. Ce qui était au fond très valorisant, parce que le vagabond, c'est un personnage, c'est un statut quasiment dans les campagnes. Et pour revenir à la sécurité, moi, je n'ai pas ressenti une seule fois, j'ai peut-être eu de la chance, je suis un homme, je suis à cheval, peut-être que ça aide, mais enfin, je n'ai pas ressenti une seule fois une mise en danger physique. Et pourtant, je n'ai pas traversé seulement les campagnes, j'ai traversé les banlieues à cheval, j'ai traversé les centres-villes, j'ai traversé les zones commerciales et industrielles, je n'ai pas fui mon époque. Mais au fond, vous réalisez que les médias vous montrent des phénomènes qui existent, mais qui au fond restent des épiphénomènes. et que dans le quotidien des gens et dans le quotidien des régions, ces phénomènes-là sont quand même assez invisibles. Je parle de région à dessein parce que je demandais toujours aux gens où suis-je? Et on me répondait toujours par le nom des régions d'Ancien Régime. On ne me disait pas vous êtes dans tel département, vous êtes dans tel numéro de département en s'agissant de la France. On me disait vous êtes en Sologne, vous êtes dans le Berry, vous êtes dans le Périgord. C'est-à-dire les vieilles régions qui ont gardé au fond leurs frontières et leurs identités et leurs traditions. Et c'est assez réconfortant. Et s'agissant de l'Europe, c'est aussi quelque part une leçon. Les peuples, vous en parliez au début, les peuples qui la constituent restent incroyablement divers et différents, avec des réflexes, des manières de penser extrêmement différentes. Si je compare notamment la Bavière et la Toscane, c'est vraiment deux mondes diamétralement opposés.
Est-ce qu'il y a quand même des choses qui les relient? Est-ce que vous vous êtes rendu compte s'il n'y avait pas de culture européenne, est-ce qu'il y avait quelque chose d'européen ou des valeurs communes entre ces différentes régions, ces différents peuples?
Attends, franchement, soit on prend des valeurs extrêmement abstraites et générales, on dit la paix, la gentillesse et la tolérance, soit si on rentre dans le détail, j'ai pas l'impression, mais je pense que c'est une force pour l'Europe, que d'avoir justement des populations qui ont une histoire encore aussi profonde et des valeurs aussi diverses. Et d'ailleurs, c'était quand même le but de l'Union européenne, c'est la devise de l'Union européenne d'ailleurs, une varietate concordia. Donc c'est bien de cette diversité qui est intéressante. Et moi, ce qui m'inquiète, et là où l'Europe, je pense, est rejetée, c'est quand elle cherche à faire ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon technocratique de l'harmonisation. Alors ça commence par l'harmonisation réglementaire, et puis ça finit par l'harmonisation des modes de vie. Et ça, c'est très dangereux, et ça crée effectivement du ressentiment, et du ressentiment qui est palpable. Pourquoi les gens n'aiment pas Bruxelles? C'est parce qu'il y a telle ou telle norme qui les emmerde au quotidien et qui généralise ensuite sur l'ensemble des institutions. Je pense qu'il est important de rappeler que l'Europe, c'est pas forcément, et peut-être que c'est bien comme ça, c'est pas forcément un projet culturel, d'unité, de valeur. C'est avant tout un espace commun. Et c'est déjà pas mal, parce que cet espace commun, il n'existe pas encore tout à fait. Essayez de passer les frontières à cheval. Et vous vous apercevrez que les frontières européennes, même indépendamment des histoires de Covid, sont beaucoup moins ouvertes qu'on ne le dit. Il vous faut toutes sortes de laissez-passer tamponnés avec de certificats de santé très bureaucratiques pour le cheval, comme si le problème de la santé du cheval, c'était de passer une frontière. Il y a des millions d'animaux sauvages qui passent les frontières tous les jours, là, n'ont pas leur certificat de vaccination. C'est parce que le cheval a un propriétaire, c'est parce que ce propriétaire a une identité nationale, a un passeport, qu'il rencontre tant de problèmes aux frontières. Donc il y a encore des frontières en Europe, et déjà, en faire un espace de libre circulation, ce serait déjà pas si mal.
Vous nous disiez que il y avait des identités très régionales, et c'est ce qu'on peut voir aussi, parce que votre périple donc de Bordeaux à Rome à cheval, on peut le retrouver aussi en vidéo en ligne sur votre site gasparkoenig.com. Vous avez tenu un journal écrit et vidéo. On y découvre beaucoup de choses étonnantes. Il y a une vidéo moi qui m'a marquée, c'était en Allemagne, où vous expliquez justement que à la fois l'économie et la vie des gens étaient un mélange de très local et de très international. Est-ce que vous pouvez rapidement nous résumer pourquoi vous avez fait ce constat à cet endroit-là particulièrement?
Alors moi, j'ai été très surpris et très séduit par la Bavière, que je ne connaissais pas du tout. Parce qu'en Bavière, vous allez à la ferme le soir, la ferme où il y a 10 vaches, 3 boxes pour les chevaux, des pâturages, quelques herbages pour le foin, peut-être un champ de céréales. Puis vous apercevez qu'en fait, autour de la table, le père est ingénieur et la fille responsable du marketing dans la PME du coin. Parce que le Mittelstand allemand, qui fascine tant nos politiques et a raison, c'est un mix justement d'ouverture à la mondialisation, parce que les gens travaillent dans des postes souvent très qualifiés, souvent très techniques aussi, dans des petites entreprises, mais des petites entreprises très performantes, exploitatrices, les meilleures dans leur domaine, le meilleur boulon du monde, la meilleure vis pour les machines à laver, mais à 5 km du village. Et donc, comme les entreprises sont restées à côté des villages, alors qu'en France, la même entreprise, si vous voulez, elle serait dans la banlieue d'Orléans, de Limoges ou de Meaux. Elle serait dans la grande ville, dans la métropole. Et donc, c'est ça qui draine le sang hors des villages. Alors que là, comme les PME, elles sont réparties dans tout l'espace, eh bien, les villages continuent à vivre de manière très naturelle. Et les traditions.
Merci Gaspard Koenig. Je vais devoir malheureusement vous couper, mais on était très heureux d'écouter donc votre retour sur votre voyage de 5 mois à travers l'Europe, qu'on peut retrouver aussi donc en ligne sur gaspardkoenig.com et qui donnera peut-être lieu à un livre.